Les témoins de l'invisible, une émission préparée, présentée par Christophe Jubien. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Dans le monde entier, ils sont des millions à avoir expérimenté ce qu'il est convenu d'appeler une EMI, une expérience de mort imminente qui, sous anesthésie, qui, au cours d'un accident de la route ou après une chute de cheval, voire durant une séance de méditation. En tout cas, tous s'accordent à décrire la même chose, une décorporation suivie d'un voyage dans un tunnel de lumière au bout duquel les expérienceurs, comme on les appelle, vont être accueillis par des êtres lumineux, voire des parents ou des amis décédés. Les expérienceurs ont-ils eu un court instant, un bref aperçu de la vie paradisiaque, ou tout cela relève-t-il de la chimie du cerveau ? Pour en savoir un peu plus à ce sujet, nous avons interrogé le docteur Jean-Pierre Jourdan, spécialiste des EMI, auquel il a consacré un gros livre Deadline, disponible en édition de poche. Aujourd'hui, nous allons écouter la troisième partie de l'entretien que le docteur Jourdan nous a accordé. Première question, nos amis expérienceurs n'ont-ils pas tout bonnement rêvé ?
On a du mal à envisager cette hypothèse, tout simplement parce que ces expériences sont quelque chose de très, très cohérent, aussi bien d'une manière interne que quand on les compare entre elles. Si vous voulez, elles ont toutes les mêmes caractéristiques essentielles. Et ce n'est pas du tout le cas des rêves, qui sont très très variés, qui peuvent être complètement farfelus ou très réalistes. Mais bon, a priori, des rêves ne sont pas semblables d'une personne à l'autre. Ensuite, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, le souvenir de ces expériences, ça on l'a montré avec le Coma Science Group, c'est quelque chose que j'avais remarqué, que j'ai consacré un chapitre dans mon livre. C'est un souvenir qui ne s'efface jamais. Et on a comparé donc les souvenirs d'expériences de mort imminente avec des souvenirs de réveil de coma, avec des souvenirs réels et très forts dans plusieurs groupes de gens qui avaient vécu une NDE, d'autres non. Et on a montré que les souvenirs de cette expérience sont des souvenirs non seulement d'expériences réelles, sont complètement différents de souvenirs recréés, par exemple, d'expériences imaginées, mais ont même plus de caractéristiques de souvenirs réels que les souvenirs réels normaux. Ensuite, bon, il y a tout simplement le déroulement de l'expérience elle-même, qui est pratiquement le même pour tout le monde. Enfin, toutes les caractéristiques ne se retrouvent pas chez tout le monde, mais tout le monde s'est trouvé au même endroit, d'une certaine manière, si vous voulez. Ça n'a strictement rien à voir, ni avec des rêves, ni... Alors, ensuite, on peut parler d'hallucination aussi. Oui. Une hallucination, par définition, c'est une perception sans objet. Le problème est que pour une personne sur deux, à peu près, qui a vécu une expérience au corps à un moment ou à un autre de leur expérience, il y a un objet perçu, puisque ce qui est perçu, c'est, quand ça peut être vérifié, exactement ce qui s'est passé. Autant ça peut paraître bizarre de faire un rêve d'une opération, d'une réanimation cardiaque, quand effectivement vous êtes sur une table d'opération ou dans une voiture écrasée ou sur une table de réanimation, ben c'est parfaitement banal. Et ce qui est décrit correspond exactement au lieu et aux gestes qui ont été faits à ce moment-là. Donc on ne peut pas parler d'hallucination non plus, puisque c'est même une des questions essentielles que posent ces expériences pour la science, c'est comment peut-on percevoir et mémoriser quoi que ce soit dans cet état-là, et d'une manière aussi précise. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus.
Alors, il y a des explications presque neurologiques, assez réductrices, mais est-ce qu'on peut en parler ? Certains disent, ben voilà, c'est la chimie, les substances chimiques présentes dans le cerveau qui se libèrent et qui créent ces images et ces expériences de toutes pièces. Finalement, c'est lié à l'activité cérébrale. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La première des choses, c'est que le cerveau y est pour quelque chose. Alors, et c'est très important, de toute façon, à partir du moment où on a une recherche scientifique, d'essayer de comparer avec ce qu'on sait. On peut aller plus loin tant qu'on n'a pas procédé à cette recherche-là. C'est-à-dire qu'on va chercher ce qui, dans le cerveau ou dans son fonctionnement, pourrait expliquer ou pourrait ressembler. Alors, effectivement, si on titille certaines zones du cerveau, si elles sont irritées, elles peuvent donner certaines caractéristiques qui peuvent ressembler. Par exemple, quand le lobe occipital, qui est la partie du cerveau qui est à l'arrière de la tête, c'est la zone de la vision. Mais quand cette zone manque d'oxygène, quand elle est excitée par le gaz carbonique qui est en excès dans le sang, les neurones se mettent à crépiter d'une certaine manière. Ça peut donner l'impression d'une lumière, de voir une lumière. Ça peut arriver dans certains cas, dans des syncopes ou des choses comme ça. Le seul problème, c'est que c'est vraiment une impression purement visuelle. C'est un peu comme les fausses veines quand on s'appuie sur les yeux, quand on ferme les yeux. La lumière qui est décrite par les expérienceurs, ils vous le disent tout de suite, d'ailleurs, c'est pas de la lumière, c'est de l'amour. Après, pareil, il y a une autre zone du cerveau qui est à la jonction des lobes pariétaux et temporaux à droite. Quand on la titille, les gens peuvent avoir l'impression de sortir de leur corps. Ils ont l'impression, ça a été fait il y a longtemps au Canada et plus récemment en Suisse, l'intervention de neurochirurgie, ça donne l'impression de sortir de ton corps. Et en fait, les gens ne voient pas ce qui se passe, ils ont l'impression de voir une partie de leur corps, tout simplement, et c'est une impression de flottement. Après, il y a une autre zone, quand on la chatouille avec du courant électrique ou quand il y a une crise d'épilepsie à ce niveau-là, qui peut donner une impression de présence. Bon, tout ça, c'est une chose. On sait, après, il y a aussi d'autres zones dans le cerveau. Si on les chatouille, vous allez entendre de la musique ou des discussions. Je veux dire, tout ce que le cerveau est capable de percevoir, on peut, en stimulant les zones qui sont responsables de ces perceptions, reproduire ces perceptions. Ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit de concret là-derrière. Si vous voulez, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui se déclenche et qui fasse quelque chose de cohérent de tout ça, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois une excitation du lobe occipital qui donne cette impression de lumière, mais en même temps du système limbique qui donne une impression de bien-être absolu, plus après une irritation d'une zone qui va donner l'impression de rencontrer un être de lumière, etc. etc. C'est quand même un mécanisme extrêmement complexe qui demanderait à être élucidé et qui n'expliquerait absolument pas ni la mémorisation, ni les perceptions, ni les changements. Je veux dire, une hallucination, quelle qu'elle soit, qui serait capable de changer les gens comme ça, toujours dans le même sens en plus, ça serait de toute façon extrêmement intéressant à étudier. Mais manifestement, on peut trouver des choses qui ressemblent de loin. Mais dès qu'on s'intéresse un petit peu plus aux détails, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Oui. De la même façon, il y a des neuroscientifiques qui ont dit, mais tout ça, c'est évident, c'est des paralysies du sommeil, c'est des intrusions de sommeil paradoxal, parce qu'il y a des phénomènes qui sont bien connus, qu'on peut appeler le voyage astral ou des choses comme ça, qui surviennent à un moment où, en général, quand on s'endort, si vous voulez, le cerveau se déconnecte du corps. Et normalement, on s'endort et le cerveau est déconnecté. De façon à ce qu'après, quand on rêve, si on rêve qu'on court ou qu'on se bat ou quelque chose comme ça, si le corps n'était pas déconnecté, la personne qui dort à côté de vous se réveillerait avec des bleus. Et vous, éventuellement, vous tomberiez du lit. Donc, le cerveau est connecté pendant le sommeil. Et il peut arriver que ça ne se fasse pas dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas complètement endormi et qu'on soit déconnecté. Et à ce moment-là, comme il n'y a plus d'informations en provenance du corps, les gens peuvent avoir l'impression de sortir de leur corps, mais là, ils ont l'impression de sortir. C'est plus du tout comme dans une expérience de mort imminente où on prend conscience hors de son corps et de percevoir ce qu'il y a dans leur chambre ou autre. Mais dans ces cas-là, il y a toujours des éléments complètement farfelus. Par exemple, ils se réveillent dans une chambre, ils disent j'ai fait une expérience hors du corps, mais alors il n'y avait plus de meubles dans ma chambre. Ou alors... il y avait une dodion bouton dans la cour, par exemple. Enfin, voilà, il y a toujours des choses complètement farfelues qui n'ont rien à voir avec les expériences de mort imminente. Là, je suis en train de faire une étude là-dessus. C'est opposable quasiment point par point. Alors que vu de loin, un neuroscientifique qui a entendu parler vaguement des expériences de mort imminente, les gens qui sortent de leur corps, non, ils ne sortent pas, mais enfin, ça fait rien, ça, ils ne le savent pas, et qui voient des choses plus ou moins farfelues, ça, on connaît bien, et effectivement, c'est expliqué, c'est quelque chose qu'on connaît très bien sur le plan neurologique, mais qui n'a rien à voir avec une expérience de mort imminente. Ouais. Donc, c'est pas une explication, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler en médecine un diagnostic différentiel. C'est-à-dire, si vous avez mal à la gorge, il y a plusieurs diagnostics, donc on fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. On regarde s'il y a un abcès, s'il y a une angine, s'il y a un cancer, s'il y a une... Enfin, voilà, il y a 36 maladies qui peuvent donner mal de gorge et on cherche laquelle est la bonne. Alors, il y a des symptômes qui sont communs, après il y a des symptômes qui permettent de différencier les unes des autres. Et c'est la même chose pour les expériences de mort imminente, si vous voulez. Il y a des expériences connues qui peuvent ressembler de loin et c'est important de faire la différence, effectivement, parce que ce n'est pas du tout la même chose.
Ouais. Donc, si je vous suis bien, ce n'est pas le cerveau qui produit les EMI et c'est là où l'histoire devient quand même très intéressante. Ça veut dire que la conscience peut se développer en dehors du cerveau. Bref, le cerveau n'est pas, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience. C'est énorme.
C'est certainement beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, la conscience, je ne pense pas que qui que ce soit puisse la définir correctement de nos jours. On n'a pas trouvé. On peut trouver des définitions. La conscience, c'est le fait d'être conscient, de savoir qu'on est conscient, de savoir qu'on est conscient d'être conscient. Oui, c'est très bien. Mais personne ne peut donner de vraies définitions de la conscience. Donc, deuxièmement, la conscience, c'est pas une chose, c'est un état, c'est un fonctionnement, c'est peut-être quelque chose qui émerge, on ne sait pas. Ensuite, la conscience qu'on a en temps normal est manifestement liée au cerveau. Elle est modulée par lui. Le simple fait de le perturber, que ce soit par des drogues, du café ou de l'alcool ou simplement un état de fatigue, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans le même état de conscience. On est plus ou moins clair, on est dans des états qui sont modulés par des facteurs extérieurs et on sait très bien comment ça agit au niveau du cerveau. Le problème de ces expériences, c'est que manifestement, et ça c'est le dernier article qu'on a publié avec le Coma Science Group, c'est en comparant les caractéristiques d'expériences vécues en état réel de mort imminente et dans d'autres états, ces expériences sont indiscernables, quelle que soit la cause, quelles que soient les circonstances. On peut prendre l'exemple de ce qu'on appelle les Fear Death Experience, qui surviennent à un moment où, par exemple, un accident est imminent. Là, vous êtes sur une route avec un précipice à votre droite, un camion en face, et une voiture ou un camion qui double l'autre, donc il n'y a aucune possibilité de vous échapper, vous freinez à mort. Et à ce moment-là, vous vivez une expérience de mort imminente, qui est indiscernable des autres. Et au dernier moment, l'accident est évité. Donc en fait, il n'y a eu aucun ni traumatisme, ni atteinte cérébrale, ni quoi que ce soit. Et votre cerveau était en état tout à fait normal, sauf peut-être bourré d'adrénaline, en état de stress, mais c'est tout. Voilà, il y a d'autres expériences qui surviennent, j'ai plusieurs cas d'expériences strictement similaires survenues pendant un orgasme. C'est essentiellement des femmes qui apparemment ont des capacités supérieures aux nôtres sur ce plan-là.
C'est une chance.
Il y a des expériences qui...
Hein ? Je dis, c'est une chance.
Ben oui. D'autres expériences qui sont survenues dans des états extrêmement divers, simplement en faisant ou de la méditation, en regardant un coucher de soleil, simplement s'émerveillant devant une fleur, ou simplement comme ça, dans un moment de recueillement aussi. Simplement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces expériences sont manifestement indépendantes, et ça je vous dis, on l'a prouvé d'une manière parfaitement scientifique, elles sont indépendantes de ce qui est des circonstances et des circonstances médicales. C'est-à-dire que vous ayez un cerveau en parfait état de marche, que vous ayez un cerveau complètement hors d'usage parce que vous êtes en arrêt cardiaque, ou même dans de rares cas, mais documentés, un moment où plus rien ne peut marcher parce que vous êtes en hypothermie. Il y a une expérience qui est connue, qui est survenue chez une dame qu'on opérait d'un anévrisme profond au niveau du cerveau et qu'on avait mis en hypothermie à 16 degrés de façon à pouvoir arrêter la circulation dans son cerveau pendant plus que les... Normalement, au bout de 3 minutes, le cerveau commence à se détruire en cas de manque d'oxygène. Là, quand on le refroidit, ça tient beaucoup plus longtemps. Mais à cette température, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a pas un enzyme, il n'y a pas une connexion qui peut fonctionner. Et elle raconte exactement la même expérience que les autres. Il y a des gens qui vivent une expérience, qui font un arrêt cardiaque sur une table d'opération. Donc, ils sont non seulement en arrêt cardiaque, mais en plus, ils ont le cerveau bourré d'anesthésiques et de prémédication. Il y a des gens qui ont vécu la même expérience lors d'une overdose d'héroïne, par exemple, qui perturbe complètement le fonctionnement cérébral. Et il y a des gens qui ont vécu ça dans un état parfaitement normal. Ce qui laisse penser que la chimie, le fonctionnement du cerveau n'a pas d'importance. Donc ça laisse effectivement, ça pose des questions énormes sur la responsabilité du cerveau dans l'expérience. Ensuite, au point de vue conscience, la principale chose, c'est effectivement que quand on vit cette expérience, apparemment, on est beaucoup plus conscient même que d'habitude. Mais c'est une conscience qui est différente. Ça, c'est encore quelque chose qui est pas facile à quantifier. Mais, par exemple, les perceptions, c'est essentiellement des perceptions de l'environnement et de sémantique. C'est-à-dire qu'il y a une perception d'information, si vous voulez, dont on peut penser après que... Au retour, le cerveau va les classifier, va mettre ça dans les tiroirs, puisque je sais ce qu'il y avait autour de moi, bon, ben, c'est visuel, donc les gens revoient ça d'une certaine manière. J'ai appris ça, c'est comme si je l'avais entendu, mais si on leur pose la question, ils n'ont pas vraiment entendu, ils ont perçu, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc c'est une conscience qui est différente. Donc on peut supposer que la conscience est certainement plus que simplement ce que peut en exprimer le cerveau, qui est peut-être un filtre. Maintenant, qu'est-ce que la conscience? Je vous dis, on n'en sait rien. On ne sait pas, c'est pas une chose, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, et on commence à peine à essayer de l'explorer. Quand on étudie un phénomène, pour un scientifique, ces manifestations... classiques, normales, sont évidemment les premières à aborder, mais s'il y a des anomalies, c'est celles qui peuvent nous apprendre le plus. À mon avis, les expériences de mort imminente sont une anomalie, entre guillemets, sont un comportement, on pourrait dire, exotique de la conscience, mais qu'on est obligé de prendre en compte, puisque maintenant, plus personne ne réfute ces expériences, même les plus sceptiques admettent leur existence. Si vous voulez, on sait qu'elles surviennent chez 15% des personnes qui ont fait un arrêt cardiaque, par exemple. Enfin bon, donc, on ne peut pas nier l'existence de ces expériences. Ces expériences sont une manifestation de la conscience, d'une manière ou d'une autre, et donc doivent faire partie de ce qu'on va prendre en compte et étudier pour comprendre la conscience. C'est un petit peu comme en physique, avant que Becquerel oublie un morceau de minerai radioactif sur une plaque photographique, la physique, on savait très bien faire de l'électricité, on savait calculer tout un tas de choses, on avait compris le fonctionnement d'énormément de choses dans l'univers, que ça concerne la gravitation ou autre chose. On pourrait très bien continuer à faire de la très bonne physique en continuant comme ça. Maintenant, il y avait un jour quelque chose d'inhabituel qui s'est passé. Un physicien qui a oublié un morceau de minerai sur une plaque photographique qui était isolée, qui aurait dû rester vierge. Quand il a développé, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose dessus. Il aurait pu la jeter à la poubelle en disant « bon, elle est de mauvaise qualité et puis je recommence mon expérience ». Non, il a cherché à comprendre qu'est-ce qu'il avait pu, à travers le carton et l'isolant, enfin, impressionner sa plaque photographique. C'est comme ça qu'après on a découvert la radioactivité. Bon, maintenant la radioactivité, ça permet de faire des scanners, ça permet de faire des radiothérapies qui sauvent des gens, ça permet aussi de faire des bombes atomiques, malheureusement. Donc voilà, mais ça a permis de découvrir tout un pan de la physique qui est fondamental et qui est parti d'un comportement totalement exotique, quelque chose qui était invisible, qui était même pas mesurable, qui est parti simplement de la curiosité d'un physicien qui a dit « tiens, c'est pas normal ». Et ça a changé le monde, d'une certaine manière. Et il est possible que les expériences de mort imminente, un jour ou l'autre, changent le monde, parce qu'elles vont peut-être permettre de comprendre un peu mieux la conscience humaine.
Oui. Vous parliez de physique. Il y a des travaux menés actuellement par des physiciens, des physiciens de l'information, qui recoupent un peu les témoignages des gens qui ont fait des EMI. On parle même de physique de la conscience, c'est les travaux de Philippe Guillemant, par exemple. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces champs de recherche qui apportent de l'eau à votre moulin?
Moi, j'ai mon propre champ de recherche. Ouais. Si vous voulez, je suis parti de ce qui est le plus abordable dans ces expériences. Parce que ce qui compte, ce qui marque les personnes qui les ont vécues, c'est ce qu'ils ont compris, c'est le sens de la vie, c'est l'amour, tout ça. Bon, ça, c'est magnifique, c'est quelque chose qui pour eux, 99% de l'expérience, et c'est peut-être ce qui changera le monde s'ils arrivent à en faire part à leurs contemporains. Mais pour un scientifique, c'est très difficilement quantifiable, si vous voulez, une fois qu'on a remarqué que 90% des gens revenaient avec ces mêmes notions. On peut la guerre, elle est plus loin pour l'instant. Par contre, il y a quelque chose qui est relativement facile à aborder, c'est les perceptions. Quand vous êtes sur une table d'opération avec un champ opératoire sur les yeux, même si vous êtes parfaitement conscient, vous pouvez pas voir quoi que ce soit. Les gens reviennent en vous disant qu'ils ont perçu un certain nombre de choses. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre quelle était la différence entre nos perceptions normales et les perceptions qu'on peut avoir dans cet état-là. Bon, là, je vais essayer de faire court parce que c'est quelque chose d'assez complexe à expliquer à la radio. Disons que tout se passe comme s'ils percevaient depuis une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que si vous voyez un tableau, vous le voyez depuis une certaine distance. Un tableau, c'est quelque chose qui est en deux dimensions, qui a une longueur et une largeur, qui n'a aucune épaisseur, et toute l'information de ce tableau est à sa surface. Et vous pouvez aussi bien le voir dans son ensemble que en regarder un endroit précis. Vous pouvez, si c'est le plan d'une maison, par exemple, votre regard peut très bien passer d'une pièce à l'autre en traversant le mur, ça pose aucun problème. Vous pouvez voir quelque chose sous tous ses angles à la fois, un détail, il y a une cerise sur le tableau, ben vous pouvez voir tous les côtés de la cerise simultanément. Alors que une vraie cerise en trois dimensions, ben vous verrez jamais ce qu'il y a derrière, par exemple. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait une modélisation, disons, qui, bizarrement, justement, puisqu'on parlait de physiciens, a été comprise tout de suite, parce qu'avant de publier ça, j'en ai parlé à des physiciens, à des mathématiciens, qui m'ont tous dit que ça tenait debout, qui l'ont compris. J'ai un article qui a été invité par un journal de cosmologie, parce que les cosmologistes, eux, ont besoin de dimensions supplémentaires pour comprendre notre univers. Et donc j'ai publié un article aux États-Unis là-dessus, qui ne pose aucun problème aux physiciens qui comprennent. Par contre, malheureusement, mes chers confrères médecins ne sont pas forcément formés à ce genre de notions et ont du mal un peu à comprendre ce que j'entends par là. Disons que voilà, on peut modéliser les perceptions dans ces expériences par la perception depuis une dimension supplémentaire. Je vous dis, comme depuis une certaine hauteur, donc une troisième dimension, on peut percevoir tout ce qu'il y a sur dans un univers en deux dimensions, comme une feuille de papier, un dessin, une photo, un écran d'ordinateur, toute l'information qui est présente dans cet univers est perceptible depuis une dimension supplémentaire, alors que un être qui vivrait à la surface serait obligé d'en faire le tour, de tout explorer pour avoir la même information. Nous, d'un seul coup d'œil, on peut avoir l'ensemble. C'est un petit peu ce qui se passe pendant une expérience de mort imminente, où toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver dans les perceptions sont parfaitement logique une fois qu'on a fait ce geste mental, si vous voulez, de changer de repère. Voilà, et ça, c'est tout à fait compréhensible par des gens qui font des sciences dures. Donc, effectivement, les physiciens ont d'autres notions d'univers holographique, par exemple, où on peut considérer ces expériences avant tout comme une perception d'information.
Voilà.
Que le cerveau, après, va essayer de mémoriser, de recréer, parce que quand il faut parler de ce qu'on a vécu, il faut bien mettre des mots. On ne peut pas inventer des mots qui ne voudront rien dire pour personne. Donc, on va mettre des concepts, on va mettre des approximations. Mais on peut considérer avant tout qu'il y a une perception globale d'information qu'on peut modéliser, comme je disais, comme la perception qu'on a globale depuis une certaine hauteur de quelque chose qui est en deux dimensions. C'est une modélisation, c'est pas une théorie, mais ça permet de rendre cohérent des choses farfelues comme l'impression de voir par transparence, l'impression de voir depuis tous les endroits à la fois, l'impression de survoler le temps, l'impression de pouvoir traverser les murs, etc. Enfin voilà. Mais ça, c'est des notions qui sont beaucoup plus géométriques et physiques que psychologiques ou médicales, effectivement.
Docteur...
Ce qui permet aussi d'appréhender la conscience d'une manière beaucoup plus globale, justement, parce que la conscience, ce n'est pas le pré-gardé des psychologues, des neuroscientifiques, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus global, beaucoup plus complexe que ça, et il va falloir que toutes les sciences s'y intéressent si on veut un jour en faire le tour.
Les sciences et aussi parfois les spiritualités, parce qu'en vous écoutant, je repensais à un tout petit haïku, vous savez, ces petits poèmes en trois vers japonais du 18e siècle qui dit, c'est de Basho, si tu veux connaître l'arbre, deviens l'arbre. Finalement, c'est une intuition qui correspond assez parfaitement à ce que vivent parfois les expérienceurs, hein, de devenir l'autre.
Ah, mais c'est même plus, très, très exactement ce que certains vous racontent.
Ouais.
J'ai un expérienceur qui vous le dit. J'ai été dans une forêt, j'étais la forêt. Puis je me suis intéressé à un arbre, j'étais l'arbre.
Ouais.
Il me dit, je sais ce que c'est d'avoir du vent dans les feuilles.
Ouais.
Il me regardait comme ça en me disant, vous me prenez pour un fou. Hein.
Ce sont des expériences éminemment poétiques.
Ça peut être, oui, bien sûr, puisque ça oblige à mettre des mots, à mettre des concepts qui sont pas habituels. Donc, dans certains cas, ça se rapproche de la poésie.
Ouais.
Mais ça peut aussi être très, très pratique et marrant, même, des fois. Parce que la même personne s'est retrouvée dans une grotte. Et il me dit, j'ai vu, il y avait des peintures sur les parois de cette grotte. Et il dit, quand je me suis intéressé à ces peintures, j'ai été les gens qui avaient fait ces peintures. Et j'ai été leur motivation. J'ai été leur... Enfin, ils savaient tout, d'une certaine manière. Et ça, on peut se dire, bon, c'est du rêve, c'est un farfelu, ou alors ils s'intéressent à l'art rupestre, tout ça. Pas du tout, c'était quelqu'un qui était directeur d'un labo pharmaceutique, qui pensait qu'aux fric, aux bagnoles et aux femmes. Globalement, le reste, ça l'intéressait pas. Et il m'a dit, mais 2 ans après, mon expérience, dans mon quartier, j'ai vu qu'il y avait une conférence sur les peintures rupestres. Il m'a dit, bah tiens, mais je vais y aller, là, il se souvient de cette histoire. Il y va. Et la dame, la spécialiste qui faisait la conférence, donc, parle de plusieurs grottes, et en particulier de la grotte des deux frères, je crois. Et il reconnaît la grotte qu'il a visitée. Et il s'est dit, bon, faut que je lui en parle. Alors, il n'a pas osé lui poser des questions devant tout le monde, parce qu'il ne voulait pas se ridiculiser, ou... Enfin, il préférait laisser poser des questions aux gens qui étaient réellement intéressés. Il est allé la voir après, et il a commencé à parler avec elle. Et au bout de 2 minutes, elle a commencé à lui donner du mon cher confrère. Et il n'a pas osé, parce qu'il en savait plus qu'elle sur cette grotte. Et elle était persuadée qu'il était spécialiste. Et il n'a pas osé, il a pas pu lui dire, écoutez, je suis désolé, mais j'ai jamais mis les pieds dans une grotte. Je m'y suis retrouvé alors que j'étais dans le coma après avoir pris un caillou sur la tête. Voilà.
On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie. On va donner peut-être, et même sans aucun doute, les références de votre site IONS. C'est une association que vous présidez, qui est l'émanation d'une association américaine, je crois, qui étudie les EMI. On peut avoir des tas d'informations sur ce sujet, donc sur votre site. Peut-être en 2-3 mots, ce qu'est IONS, quand même.
IONS, c'est les États-Unis. C'est une association qui est maintenant ancienne et qui avait été montée par un psychologue qui s'appelle Kenneth Ring dans les années 80, si je me souviens bien. Et moi, je suis président depuis quelques temps de la branche française qui est totalement indépendante hein, de l'association américaine qui s'appelle donc IANS France. C'est IANDS, Trait d'Union France. Voilà, association au sein de laquelle nous essayons de faire... et de promouvoir une recherche sérieuse, objective, indépendante de toute croyance sur ces expériences, sur le plan scientifique et pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre ensemble des gens de toutes les disciplines, parce que pour l'instant, il n'y a pas une discipline qui a la propriété des choses de mort imminente, donc il faut vraiment les explorer avec tous les moyens qui sont à notre disposition. En même temps, nous essayons de monter, donc, d'organiser des antennes régionales. Il y en a plusieurs qui commencent à bien fonctionner, avec des réunions aussi souvent que possible, qui permettent aux personnes qui ont vécu cette expérience de se retrouver, de commencer par raconter leur expérience, parler entre elles, et ensuite d'essayer de définir quelles sont leurs préoccupations, et de réfléchir là-dessus. Et les réflexions les plus courantes maintenant, c'est l'après-expérience, la signification de l'expérience dont chacun a son ressenti, qui est assez commun à tous. Après, voilà, ces personnes se posent la question, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Qu'est-ce que ça implique sur la vie, sur... voilà, enfin, pour l'instant, on en est là.
Docteur Jourdan, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est donc IANS France. Il suffit de taper ça sur son moteur de recherche et on trouvera le site. Il y a notamment des vidéos de témoignages qui sont tout à fait vraiment bouleversantes. Hein. C'est le mot. Et tout à fait intéressantes aussi, très excitantes pour l'esprit. Un grand merci à vous et on croise les doigts. Et on espère que cette recherche va progresser et que vous serez de plus en plus et de mieux en mieux entendu. We are zooming away, we go to go. Zooming away, we are zooming away. We are zooming away.